La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le tout-puissant, magnifique et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ravi de vous retrouver, toujours très nombreux à l'écoute. Oui, vous écoutez bel et bien l'air de la vérité. Et nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus. Non seulement d'être compté parmi les vivants, vous le savez autant que moi, que beaucoup avaient de grands projets, de grandes ambitions, mais la mort les a fauchés, ils sont dans des morgues ou dans des cimetières. Mais quant à nous, Dieu nous a encore donné d'être compté parmi les vivants, et ne serait-ce que pour cela, il mérite que nous lui disions merci et que nous lui rendions gloire en toutes choses. Et vous savez également que c'est toujours un merveilleux privilège de passer un peu de notre temps dans la sainte parole du Dieu vivant. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Selon Psaume 119, le verset 105. Et vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité, je le disais tantôt. Je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Ngenji. Et cette émission, bien entendu, il se déroule sous l'œil très vigilant de Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Très chers auditeurs, très chers auditrices, nous allons continuer à nous intéresser aux serviteurs de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une série d'enseignements concernant les fausses doctrines. Et nous avons vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses que l'on enseigne, que l'on pratique au milieu des enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur, en réalité qui n'ont pas de fondement biblique. Et cette mission a pour vocation de ramener les enfants de Dieu, de ramener le peuple de Dieu dans la Bible. Donc, c'est le moment de retourner à la Bible, de retourner à la vérité biblique. C'est pour cette raison que Jésus a dit que si vous demeurez dans Ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'évangile de Jean chapitre 8 à partir du verset 31 au verset 32. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et comme d'habitude, je vais vous inviter à avoir de quoi noter. Oui, avoir un stylo et un papier. Parce que c'est important que votre foi soit fondée vraiment sur la parole de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Et je vous encourage aussi, à ceux qui n'ont pas encore de Bible, de faire un effort, de s'en procurer une et surtout de la méditer profondément. Parce que si nous sommes arrivés à ce point où il y a tellement des hérésies et des fausses doctrines et que ces fausses doctrines prospèrent, et sont devenus même la norme, c'est tout simplement parce que même les chrétiens eux-mêmes n'ont plus le temps de lire la Bible. Ou bien les chrétiens ne savent pas que eux-mêmes ils ont le droit d'examiner soigneusement ce qu'on leur enseigne pour être sûr que c'est vrai. Malheureusement, parfois les chrétiens avalent tout. Et beaucoup ont la Bible chez eux et ils ne lisent pas cette Bible. Ils croient que ce n'est que le pasteur qui connaît lire la Bible, qui doit lire la Bible. Et je vous disais déjà que c'est un merveilleux privilège pour nous d'avoir la Bible aujourd'hui. Parce que jusqu'à une certaine époque, le diable avait créé un mouvement religieux qui interdisait aux gens de pouvoir même lire la Bible. Et c'était réservé rien qu'au clergé. Et ceux qui avaient le malheur d'en procurer une s'exposaient vraiment à la lapidation. Et certains étaient brûlés même vifs, tout simplement parce qu'ils étaient trouvés en possession des Saintes Écritures. Pour vous dire que le diable n'a jamais voulu que les gens connaissent la vérité. Le diable a toujours tout fait pour cacher la vérité aux hommes. C'est pour vous dire que je vous lance vraiment ces vibrants appels. Faites tout pour avoir une Bible. Et vous qui en avez, lisez-la et examinez toutes choses pour être sûr que ce qu'on vous enseigne dans vos milieux religieux ou que tout ce que vous écoutez, tout ce que les hommes pratiquent au nom de Dieu, ce que c'est vraiment conforme à la sainte parole du Dieu vivant. La Bible, Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 10 au verset 11, il est écrit: aussitôt les frères firent partir des nuits Paul et Silas pour Bérée. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Nous voyons les chrétiens de Bérée qui examinaient ce que les apôtres eux enseignaient pour se rassurer que ce qu'on leur disait était vraiment exact. Et c'est ce que tout le monde doit faire, ce que vous devez faire. Est-ce que tout ce qu'on vous enseigne est vraiment exact selon la parole de Dieu? Et nous avons vu qu'il y a vraiment beaucoup de choses que l'on enseigne qui ne sont pas exactes à la lumière des Saintes Écritures. Nous avons commencé par le salut, le chemin du salut, à savoir que le chemin du salut ne passe que par Jésus qui a dit lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie, et non un système religieux et non une religion. Malheureusement, beaucoup continuent à faire la publicité de leur religion comme si c'est la religion qui sauvait, et beaucoup continuent à inviter les gens à venir peupler leur religion sans se soucier si ces personnes sont vraiment nées de nouveau, si ces personnes sont vraiment des enfants de Dieu. Pas étonnant donc que beaucoup de personnes vont mourir et se retrouver après le jugement dernier très très loin du Seigneur dans les temps ardents de feu, alors qu'ils ont passé beaucoup de temps dans leur religion, à servir même fidèlement leur religion. Mais la vérité c'est qu'aucune religion ne peut sauver. Avant de vous abonner à une religion, avant de vous vanter d'appartenir à une religion, rassurez-vous au moins d'une chose: est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Parce que Jésus a dit qu'il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Nous avons également vu le baptême. Nous avons vu que baptême veut dire plonger, immerger. Et que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Les enfants ne peuvent pas s'engager avec une bonne conscience. Tant qu'on n'a pas plongé, immergé, on ne peut pas du tout parler de baptême. À la lumière des Saintes Écritures. Bien entendu, et nous sommes en train de voir maintenant les serviteurs de Dieu. Nous avons fait un peu de l'histoire pour voir comment est-ce que les faussetés se sont introduites dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable a toujours voulu éloigner les hommes de Dieu, éloigner les hommes de la vérité. Et il a également réussi à éloigner l'église du Seigneur Jésus-Christ de la vérité. Quand je parle de l'église ici, il ne s'agit pas d'un système religieux. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de l'ensemble de tous les vrais chrétiens habités par l'Esprit de Dieu sur la terre. Et c'est ça, la véritable église du Seigneur Jésus. Jésus a dit qu'il revient chercher une église glorieuse sans tâche. Nous allons lire ces versets tout à l'heure. Et Satan, sachant que, en éloignant l'église du Seigneur de la vérité, cette église va perdre sa notoriété, va perdre sa puissance. Pas étonnant donc aujourd'hui que beaucoup ne s'intéressent plus aux choses de l'église, parce que l'église n'a plus vraiment cette notoriété qui est la sienne. Oui, l'église s'est corrompue et s'est détournée de la parole de Dieu. L'église a introduit en son sein des fausses doctrines, de la sagesse humaine, oui, des dogmes des hommes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 27, où il est écrit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, la Bible nous dit que Jésus-Christ va revenir chercher une église qui est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous qui m'écoutez, qui êtes chrétien, qui êtes prêtre, qui êtes pasteur, si le Seigneur Jésus-Christ devait revenir aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour son prochain retour? Parce qu'il a dit qu'il revient chercher une église glorieuse. Et je tiens en pensant que l'église, c'est le chrétien lui-même, parce que c'est lui qui est le véritable temple de Dieu. L'église, ce n'est pas un bâtiment religieux. L'église, ce n'est pas un système religieux ni une dénomination. L'église, c'est vous et c'est moi. D'ailleurs, lorsque je veux m'entretenir avec vous sur l'église, nous y reviendrons en détail. Nous voyons pourquoi j'insiste beaucoup sur certains points. Parce que l'église a besoin d'être réformée. L'église doit revenir à la vérité biblique. Et ce n'est qu'au travers de ce retour à la vérité biblique qu'elle peut prétendre être glorieuse, être pure, être sans tache ni ride, être irréprochable, sainte. Sainte. Et pourtant, nous voyons qu'il y a trop de mauvaises choses qui se produisent à l'église. Oui, les adultères se retrouvent à l'église, les menteurs, les fornicateurs se retrouvent à l'église, les soulards. Oui, toutes les choses qui sont censées se retrouver que dans le monde se sont introduites que dans l'église et ont pris sérieusement place. Alors que la Bible nous dit que Jésus revient chercher une église sainte, c'est-à-dire pure, sans péché. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation, d'exhortation. Oui, l'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans concession et sans compromis. Oui, la vérité qui divise et qui dérange, mais surtout, la vérité qui sauve, qui affranchit et qui libère. Et nous sommes en train de voir depuis un certain temps ce que la Bible dit concernant les serviteurs de Dieu et ce que les hommes font en général autour de nous. Et pour ceux qui étaient à l'écoute, bien pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu que la théologie n'est pas née dans l'église. Un petit rappel. Oui, l'école théologique, ou bien les écoles théologiques, les séminaires que les hommes ont créés pour former les spécialistes religieux, nous voyons que ça n'a pas de fondement biblique. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, à partir de verset 7, que les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres et les prophètes sont directement appelés par Dieu lui-même. Et Dieu les fait don au corps de Christ, afin qu'il puisse maintenant aider les chrétiens à bien, oui, à bien servir le Seigneur selon ce qu'il est écrit au verset 11 de Éphésiens chapitre 4, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Malheureusement, nous voyons que de nos jours, c'est pas les écoles théologiques, bien dans les écoles théologiques, que les hommes s'en vont chercher un diplôme et un titre religieux pour devenir pasteur, évangéliste, docteur. Et parfois, il y a même des grades qui peuvent s'augmenter, ça dépend des systèmes religieux. Parfois, on peut quitter d'anciens à pasteur, ou bien évangéliste, pasteur, et ainsi de suite. On va voir même les pasteurs d'assemblée, le pasteur local, le pasteur de district, le pasteur régional, ainsi de suite. Tout cela, ce n'est pas biblique. Il n'y a que les entreprises humaines qui fonctionnent de la sorte. Mais à la lumière des Saintes Écritures, nous voyons que les pasteurs servent le corps de Christ et non un système religieux et non même une assemblée locale. Oui, nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que les églises locales étaient dirigées par les anciens. Oui, nous allons y revenir tout à l'heure, les anciens. J'avais promis la dernière fois. Nous avons également vu que l'ordination pastorale et autres, telle que nous la voyons de nos jours, n'a vraiment rien à voir avec la parole de Dieu. Ces fêtes pompeuses que l'on organise pour consacrer les uns et les autres comme pasteurs, évangélistes, avec toutes les cérémonies et les cotisations, l'argent qu'il y a tout autour, nous voyons que tout cela n'a pas vraiment des fondements bibliques. Nous voyons que les apôtres, que ce soit Jésus lui-même, lorsqu'il a choisi ses 12, il n'a pas fait de ça une grande fête spéciale avec de tout ce, le tapage que nous connaissons. Et dans certains milieux, on verse même de l'huile sur cela. Et on dit qu'à partir de ce jour, tu es consacré, tu es devenu pasteur international, pasteur mondial, tu es devenu révérend ici, révérend cela. Nous avons vu que, à la lumière des Saintes Écritures, ce n'est pas ainsi que les choses se passaient au temps de Jésus et au temps des apôtres. Nous avons vu que les choses étaient simplifiées. Oui, simplifiées. L'imposition des mains et la présentation à l'église étaient suffisants. Oui, pour reconnaître publiquement le ministère de ceux-là qui ont fait les preuves. Oui, pour dire que quoi? Un pasteur n'est pas un pasteur parce qu'il a reçu un diplôme théologique dans une école théologique ou dans un grand séminaire. Un évangéliste ne l'est pas aussi parce qu'il est parti dans une école théologique. C'est tout simplement parce que ils ont fait les preuves. Et à un moment donné, le peuple de Dieu constate tout simplement que ces personnes ont été appelées de Dieu et Dieu les a donné comme don. Et en les donnant cette capacité, ce ministère pastoral ou d'évangélisation et autres, ou prophétique pour les prophètes, ou apostolique pour les apôtres, c'est de cette manière que les serviteurs de Dieu appelés par Dieu confirment publiquement les ministères. Puisqu'on reconnaît un arbre par le fruit qu'il produit. Et nous avons vu également à la lumière des Saintes Écritures qu'il y a beaucoup de titres religieux qu'on donne aux hommes aujourd'hui, ou bien que les hommes s'approprient, qui ne sont pas fondés dans la parole de Dieu. Et en passant, j'avais dit que révérend, un titre très très répandu, ne vient pas de la Bible. Révérend pasteur, révérend apôtre, prophète, évangéliste, bientôt même les diacres vont aussi revendiquer ce titre révérend, révérend diacre ou révérende diaconesse. Nous voyons que tout cela, vraiment, ce n'est pas biblique. La seule personne qui mérite la révérence, c'est Dieu. D'ailleurs, si Dieu avait permis aux hommes d'avoir ce titre, moi, ça ne me dérangerait pas. Nous avons vu également, Dieu a dit, n'appelez personne sur la terre, mon père, car il n'y a qu'un seul qui est votre père, Dieu qui est dans les cieux. Et pourtant, c'est le contraire que nous voyons de nos jours. Nous voyons vraiment que les hommes, c'est comme si parfois ils veulent défier Dieu en faisant exactement ce que Dieu a défendu. Et ceux qui ne lisent pas la Bible, parfois ne savent même pas ce qui se passe. Et nous avons vu que, à la lumière des Saintes Écritures, il y a les titres qui sont bibliques, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, diacre, diaconesse, ancien, évêque. Voilà les titres qui sont bibliques. Mais il y a déjà même les archevêques. Alors que la Bible reconnaît évêque. Et en passant, évêque veut dire ancien ou prébistre. C'est la même chose. Ou bien surveillant, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons de nos jours. Oui, et les évêques, c'était les anciens qui dirigeaient les assemblées locales. Et de nos jours, un évêque, c'est celui qui dirige toute une région, toute une province, et ainsi de suite. Nous voyons vraiment que nous sommes très très loin de ce que la Bible enseigne en voyant certaines choses autour de nous. Et nous ne pouvons pas voir ces choses et ne pas dénoncer, parce que Dieu veut que le peuple de Dieu retourne à la vérité biblique, la vérité simple et biblique. Et ce n'est que cette vérité qui peut nous affranchir, qui peut nous sauver. Nous avons également vu que les habillements spéciaux que l'on a introduits encore dans la chrétienté, oui, les choses qu'on a copiées au monde et parfois au sacerdoce lévitique, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, alors que les apôtres, que ce soit même le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, eux, ils s'habillaient tout simplement, ils n'avaient pas besoin de soutane, n'avaient pas besoin des cols blancs et des habits qui va vraiment les distinguer des autres. Nous avons vu que, à la lumière des Saintes Écritures, que l'habillement, le véritable habillement des serviteurs de Dieu, ce sont les œuvres justes. Nous avons lu cela dans Apocalypse chapitre 19, oui, à partir du verset 6, que ce sont les œuvres justes et bonnes des serviteurs de Dieu qui sont comme les vêtements. Pour dire qu'on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu à partir de son accoutrement spécial qui le distingue des autres, mais c'est à partir de ses œuvres. Oui, c'est à partir de ses œuvres. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris cela. Et nous avons également vu à la lumière des Saintes Écritures que Dieu, dans sa sagesse, a voulu que les assemblées locales ou les églises locales soient dirigées par les anciens et que pendant ce temps, les autres ministres, dont les cinq ministères, à savoir apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs, eux, ils vont sillonner le corps de Christ pour rendre ministère. Voilà ce que Dieu a prévu pour l'église. Que une église qui était dirigée par un pasteur, nous ne voyons pas une telle chose dans la sainte parole de Dieu. Nous avons vu que l'apôtre Paul, lui-même qui est l'un des apôtres, qui a travaillé même plus que tous les autres apôtres, lorsqu'il arrivait dans une ville, lorsqu'il a implanté les assemblées, après un certain temps, lorsqu'il voyait qu'il y avait déjà des personnes capables, oui, de diriger cette assemblée, des personnes matures, spirituellement parlant, il les établissait comme anciens et il continuait sa route en tant qu'apôtre pour aller là où le Seigneur devait encore l'envoyer pour servir le corps de Christ. Et il en était ainsi pour tous les autres apôtres. Et nous devons revenir à la parole de Dieu. Dit que normalement, les assemblées locales devraient être dirigées tout simplement par les anciens et non par un pasteur qui est au-dessus des anciens. Non. Je profite pour m'adresser à tous les vrais pasteurs. Je précise vrai, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont des pasteurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont là tout simplement parce qu'ils manquent de quoi manger et les titres leur donnent le travail et un peu de quoi manger de temps en temps. Pour ceux qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ont été oints par Dieu lui-même pour servir son peuple comme pasteur, sachez que votre ministère est un ministère itinérant. Vous deviez sortir, oui, de ces boîtes qu'on appelle système religieux ou dénomination et aller servir le corps de Christ là où le Seigneur va vous envoyer. Quand le Seigneur ne vous envoie pas en mission, vous restez tout simplement dans une assemblée locale. Et quand le Seigneur ou bien le Saint-Esprit vous dit « Va dans tel endroit rendre ministère parce que mon peuple en a besoin », tu te lèves, tu obéis et tu t'en vas. Et ce ne sont pas les hommes qui affectent les vrais serviteurs de Dieu, et c'est également ce que nous voyons de nos jours. Oui, je l'ai dénoncé la dernière fois. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a dit à Antioche, par exemple, dans Actes chapitre 13, que « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Et l'Église a obéi et a mis à part ses apôtres. Et de la même manière, de nos jours, si on veut revenir aux Saintes Écritures, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas affectés comme les membres du gouvernement. Les vrais serviteurs de Dieu, à savoir particulièrement ces cinq ministères, pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, ils obéissent directement à la voix de Dieu, du Saint-Esprit, et ils partent là où le Seigneur les a envoyés pour rendre ministère. Oui, C'est pour dire que si les systèmes religieux veulent recruter même les païens pour les diriger, certains peuvent le faire, mais il faut que ce système religieux libère les vrais serviteurs de Dieu qu'ils ont enchaînés dans leur système religieux pour les servir. Oui, les pasteurs ne sont pas là pour servir un petit groupe d'individus dans un système religieux, parce que même si votre système religieux est grand n'importe comment, ça demeure un petit groupement d'individus, alors que le corps de Christ est tellement large, parce que le corps de Christ, c'est sur tous les quatre coins de la terre. Oui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et toujours à la lumière des Saintes Écritures, nous avons vu que l'Église, une assemblée locale biblique, était dirigée par les anciens et les diacres ou les diaconesses. Voilà ce que la Bible atteste. Les diacres et les diaconesses, bien entendu, associés aux anciens. Nous ne voyons pas une église dans la Bible être dirigée par un pasteur. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons nous intéresser particulièrement aux anciens. Et je vous invite à rester tout simplement à l'écoute. Vous écoutez toujours l'heure de la vérité. Et cette fois-ci, nous allons un peu nous intéresser aux anciens. Avant de nous intéresser aux anciens, la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, que l'Église du Dieu vivant est en même temps la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église du Dieu vivant, la véritable Église du Dieu vivant sur la terre, est censée être l'appui et la colonne de la vérité. Donc si les hommes avaient besoin de la vérité concernant n'importe quel sujet que ce soit, ces hommes devraient se tourner que vers l'Église. Donc l'Église est bien placée pour soutenir et défendre la vérité en toutes choses. Mais malheureusement, nous voyons que c'est dans l'Église qu'on retrouve les faussetés et les mensonges, ou bien les doctrines mensongères, ce qui est tout simplement regrettable. Si la lumière devient ténèbre, imaginez comment seraient les ténèbres. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, qui dit, 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou ancien, » oui, parce que évêque et ancien, presbytre, c'est la même chose, « si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas, verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit concernant les anciens. La Bible dit que si quelqu'un veut être ancien, c'est une œuvre excellente. Oui, une œuvre excellente. Et surtout, il faut qu'il soit irréprochable et mari d'une seule femme. Malheureusement, dans beaucoup de systèmes religieux, nous voyons beaucoup d'anciens qui sont des polygames. Oui, la Bible nous dit qu'un ancien, parce qu'ils sont eux qui sont censés diriger l'Église et non un pasteur, ils doivent être des modèles en toutes choses et surtout, ils doivent être mari d'une seule femme. Vous dites que dans les églises où les anciens sont des polygames, ce n'est pas normal à la lumière des Saintes Écritures. Ça ne veut pas dire que les polygames n'ont pas de place à l'Église. Non, ils ont leur place à l'Église. Mais ils peuvent tout faire, mais sauf être anciens à la lumière des Saintes Écritures. Ce n'est pas également pour dire que les anciens ne peuvent pas être sauvés, parce que j'ai entendu certains polygames venir me dire, comme je suis polygame, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, Jésus est mort pour tous les hommes, y compris pour les polygames. Oui, le Seigneur est le sauveur de l'humanité tout entière. Si vous vous repentez, si vous acceptez le Seigneur Jésus, le Seigneur va vous sauver. Mais seulement, à l'église, vous serez comme un simple chrétien. Vous ne pouvez pas être ancien. À la lumière des Saintes Écritures, je souligne toujours, la Bible nous dit qu'il doit être hospitalier, propre à l'enseignement. Donc les anciens, comment peuvent-ils diriger correctement s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, s'ils ne peuvent pas enseigner? Parce que lorsque les gens auront des problèmes qui nécessitent une étude profonde de la parole de Dieu, et si ceux qui sont censés les aider ne connaissent pas ce que dit réellement la parole de Dieu, quel conseil pourrait-il donner à ces personnes qui ont besoin de conseils? C'est pour cette raison que les anciens doivent vraiment avoir un minimum de la connaissance biblique. Mais curieusement, dans beaucoup de systèmes religieux, nous voyons beaucoup à qui on a donné des titres d'anciens qui ne connaissent même pas le ABC de la Bible. Ce qui est tout simplement regrettable. Oui, les anciens qui ne peuvent même pas prêcher l'évangile, c'est tout simplement regrettable. Comment est-ce qu'un ancien ne peut pas prêcher l'évangile, ne peut pas enseigner les nouveaux convertis, ne peut pas, ne serait-ce qu'avoir les éléments de base de la parole de Dieu pour aider ceux qui en ont besoin? La Bible nous dit aussi que il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Malheureusement, beaucoup d'anciens sont des ivrognes. Pourtant, la Bible dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Et la Bible nous continue en disant, verset 4, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Certaines personnes sont allées très loin. Ils ont dit que ils ne peuvent pas fonder une famille afin de bien servir Dieu. Parce qu'en fondant une famille, en se mariant, en ayant les enfants, ça risque d'être une distraction pour eux. Voilà le raisonnement que nous brandissent certaines personnes, certaines catégories de serviteurs de Dieu. Alors que c'est exactement le contraire que la Bible nous dit. La Bible nous dit que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc c'est la volonté parfaite de Dieu que ses serviteurs aient des enfants, se marient et aient une maison qu'ils dirigent bien. Et ainsi, ils seront capables, après avoir dirigé leur propre maison et leurs enfants, de diriger l'église du Seigneur. C'est pour dire que l'argument qui dit que se mariant en ayant les enfants, c'est une distraction, ou bien ça ne les permettra pas de bien servir Dieu, ça ne tient pas debout à la lumière des Saintes Écritures. Bien sûr que tous les hommes ne doivent pas se marier ni fonder une famille, mais ce n'est pas une raison pour dire que en fondant une famille, en ayant des enfants, ça doit être une distraction. Bien au contraire, on apprend à servir Dieu dans sa propre maison au travers de ses enfants. La Bible continue en disant, nous sommes au verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Oui, la Bible nous dit que les anciens ne doivent pas être des nouveaux convertis. Et pourtant, malheureusement, dans beaucoup de nos systèmes religieux, il suffit que quelqu'un arrive et qu'il ait un peu les poches lourdes, le lendemain, il est ancien. C'est tout simplement regrettable. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce genre de personnes? Quelqu'un qui vient à peine de mettre ses pieds à l'assemblée, on ne sait pas si c'est même réellement converti. Mais parce qu'il est bien assis financièrement ou matériellement, directement le pasteur le nomme ancien, le nomme conseiller. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Et il ne faut pas être surpris que beaucoup d'anciens dans certaines assemblées vraiment soient des pieds d'achoppement pour le peuple de Dieu. Parce qu'ils sont vraiment ces personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour être anciens. Un ancien, c'est quelqu'un qui est quand même mature spirituellement, qui est mature dans la foi. Déjà, le mot ancien veut dire ce que ça veut dire. Ancien veut dire ce que ça veut dire. Une certaine maturité spirituelle. C'est pour dire que quoi? nous avons vraiment une réforme profonde à refaire en ce qui concerne l'Église. Et je veux profiter également pour m'adresser à vous qui avez même acheté votre titre d'ancien. Oui, parce que j'ai entendu, j'ai eu ces cas, des gens qui ont même payé pour devenir anciens. C'est tout simplement regrettable. Nous voyons jusqu'où l'Église est en train de s'enfoncer. Depuis quand est-ce qu'on doit payer pour devenir ancien? Et certains, parce qu'on les a nommés anciens, ont des sommes qu'ils doivent verser chaque période donnée. Tout ça, ce n'est pas biblique. Revenons à la parole de Dieu. C'est l'heure de la vérité. C'est le moment de retourner aux Saintes Écritures avant qu'il ne soit trop tard. Et toujours concernant les anciens, dans Tite, chapitre 1, Tite, chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 9, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle. À Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville ou des évêques dans chaque ville. Donc nous voyons que, au temps des apôtres, une ville ou une assemblée devrait avoir des évêques ou des anciens. Mais aujourd'hui, parfois, on trouve un évêque qui dirige toute une région. Alors que c'était les évêques pour une église ou pour une ville. Selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ça revient toujours, mari d'une seule femme, qui ne soit accusé ni de débauche, ni rebelle. Verset 7, car il faut que l'évêque, nous avons vu, l'apôtre Paul commence d'abord en disant, je veux que tu établisses des anciens dans chaque ville. Et en bas, il dit, il faut que l'évêque, dont l'évêque est ancien, c'est la même chose. Mais malheureusement, parfois on a fait croire aux gens que avec évêque était plus grand que ancien. C'est vraiment la confusion totale. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. La Bible est claire, formelle. Les anciens doivent connaître la parole de Dieu afin d'être même capables de réfuter les contradicteurs et de défendre la parole de Dieu et la saine doctrine. Voilà ce que la Bible demande aux anciens. Ce qui est tout à fait normal parce que ce sont eux qui ont la charge de diriger les assemblées locales et non un pasteur. Oui, j'insiste beaucoup à ce niveau. Ce sont les anciens qui ont la charge à la lumière des Saintes Écritures de diriger les assemblées locales. C'est pour cette raison qu'ils doivent être des modèles en toutes choses. Et la Bible nous dit que ils ne doivent pas être portés à un gain honteux. Un gain honteux. Ils ne doivent pas servir à cause des intérêts pécuniaires. Ils ne doivent pas servir parce qu'ils ont un salaire. Malheureusement, nous voyons que dans beaucoup de systèmes religieux, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des fonctionnaires. Ils servent beaucoup plus à cause du salaire qu'on va leur donner. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, ils sont obligés à se plier et à se soumettre à tout ce qu'on peut leur imposer, même si ce n'est pas biblique, parce que leur salaire passe par là. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Nous ne voyons nulle part les serviteurs de Dieu être payés comme des fonctionnaires dans la Bible. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul, après avoir établi les anciens dans les assemblées locales, il leur demandait de travailler afin de ne pas tomber dans le piège de la corruption. Oui, l'apôtre Paul lui-même, en tant qu'apôtre, Il savait qu'il pouvait vivre en ne comptant que sur l'évangile, en ne comptant que sur les chrétiens pour subvenir à ses besoins. Il savait très bien qu'il avait ce privilège. Mais curieusement, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons qu'à plusieurs reprises, il a travaillé partout où il est parti, rendre ministère. Et chaque fois, il réunissait les anciens, il leur disait, si je fais cela, c'est pour vous montrer un exemple. Oui, et il a tellement insisté. Donc, il peut arriver que les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres et les prophètes, à un moment donné, Dieu peut leur demander de tout laisser pour se consacrer uniquement à son service, parce qu'ils vont servir le corps de Christ de façon itinérante. Là, il n'y a pas de problème. Mais la Bible insiste que les anciens, quant à eux, qui sont chargés de diriger les assemblées locales, doivent travailler. Ne doivent pas dépendre des fidèles pour vivre, afin de ne pas tomber dans le piège de la corruption, de la compromission. D'ailleurs, nous pouvons remarquer dans beaucoup de milieux religieux que beaucoup qui financent tellement, qui ont les poches suffisamment lourdes, on ne peut pas les reprendre n'importe comment, ni les reprocher les mauvaises actions n'importe comment. Tout simplement parce qu'ils versent d'énormes sommes à l'église pour soutenir le pasteur ou pour soutenir la religion. Nous voyons que c'est tout simplement regrettable pour l'église du Seigneur. Très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'aide de la vérité qui divise et qui dérange, mais la vérité biblique qui libère et qui affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et en passant, puisque nous sommes en train de parler des anciens, nous avons vu que la Bible nous parle toujours de l'homme marié d'une seule femme et non d'une femme mariée d'un seul mari. Vous dites que quoi, à la lumière des Saintes Écritures, du moins par rapport à la Sainte Parole du Dieu vivant que moi j'ai en main, je ne vois pas de femme ancienne. Ça va également choquer beaucoup de gens. Oui, la Bible nous dit toujours de l'homme marié d'une seule femme qui fait partie des critères pour être qualifié ancien. Et la Bible ne parle pas d'ancienne à la lumière des Saintes Écritures. Puisque les anciens sont censés être ceux qui vont diriger, et pourtant la Bible nous dit que Dieu ne permet pas à la femme de dominer sur l'homme ou de diriger les hommes à la lumière des Saintes Écritures. Pour utiliser les termes bibliques, on ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12. Ça, c'est un autre sujet, j'y reviendrai en détail, si le Seigneur le permet. Nous voyons également que de nos jours, certaines personnes gèrent l'église comme une entreprise familiale. Le pasteur gère l'église comme son entreprise avec sa femme parfois. Et quand il n'est pas là, c'est sa femme qui dirige l'entreprise. Tout ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut retourner à la parole de Dieu pendant qu'il est encore temps. L'assemblée du Seigneur ne doit pas être confisquée par un individu ou par un groupe d'individus ou par une famille. Pour n'importe quelle raison que ce soit. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus. À moins que ce soit une entreprise humaine. Oui, c'est pour vous dire que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il y a une église invisible que Jésus est en train de bâtir jour après jour. Et tous ceux qui font partie de cette église invisible, lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur, ils font tout pour mettre leur vie en règle, afin d'être prêts pour l'enlèvement. Et il y a aussi ce que les hommes sont en train de bâtir jour après jour, et ils appellent aussi cela église. Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur. Nous serons très surpris lorsque le Seigneur va revenir et qu'il va dire à beaucoup, je ne vous connais pas. Et pourtant, ils ont bâti des grandes choses sur la terre, sous prétexte que c'était au nom de Dieu. En fait, ils étaient en train de bâtir leur propre empire religieux. Et ce n'était pas vraiment l'église du Seigneur, parce que le véritable bâtisseur, c'est Jésus lui-même bâtissant son église. D'ailleurs, lui, il a dit, je bâtirai mon église. Et J'ai parlé tout à l'heure que si la Bible n'a pas parlé des femmes anciennes, par contre, la Bible nous parle clairement des diaconesses, c'est-à-dire les diacres et les diaconesses. Les tâches consistent tout simplement puis à faire certaines choses que leur demande l'Église, ou bien au temps des apôtres, ce que les apôtres pouvaient leur donner de faire, ou bien les services que l'Église pouvait leur confier. Par exemple, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 6, nous voyons pour la première fois comment les diacres vont intervenir à l'Église pour pouvoir s'occuper des questions matérielles et financières, et surtout de la distribution dans l'Église primitive. Et dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul va apprécier particulièrement une sœur en l'appelant diaconesse. Oui, nous sommes dans Romains chapitre 16, premier verset qui dit « Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'Église de Synchrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Donc, diaconesse, diacre, c'est biblique. Et nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Et avant de finir cette émission, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10, où il est écrit: comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible nous dit que chacun met au service des autres le don qu'il a reçu. C'est pour dire que chaque chrétien a au moins un don, et il doit exercer ce don à l'Église. Pour dire que l'Église n'est pas un endroit où il y a certaines personnes qui viennent seulement pour s'asseoir, et il y a certains qui sont devant, que le pasteur seulement qui parle, qui prêche tous les jours, ou bien les spécialistes qui vont monter chanter dans la chorale, et les autres sont là comme des spectateurs, un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, ainsi de suite. Ce n'est pas biblique. Dans Romains chapitre 12, nous pouvons lire ceci. Dans Romains chapitre 12, il est écrit, nous sommes au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup de dons qui doivent se manifester au milieu du peuple de Dieu. Et si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, c'est une longue lecture, que ce soit à partir du premier verset jusqu'à la fin, la Bible cite des dons spirituels que les enfants de Dieu ont, pour dire que dans une assemblée locale biblique, chaque chrétien a au moins un don, et ils sont encouragés à manifester ces dons. C'est pour cette raison que les assemblées locales ne doivent pas être dirigées vraiment d'une façon charnelle humaine, où on a déjà tout réglé d'avance, où on sait que à telle heure la chorale va chanter, et après le pasteur va prêcher, et après on va prendre les dîmes, les offrandes, et après rentrer, pendant que les autres là sont comme des spectateurs. Non, l'Église du Seigneur, à un moment donné, doit être ouverte afin que ceux qui ont des dons spirituels puissent pouvoir manifester ces dons. Et les anciens sont là tout simplement pour veiller afin que tout se fasse dans l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Par la grâce de Dieu, j'y reviendrai en détail sur ces réunions chrétiennes qui, à un moment donné, doivent être libres, pour laisser la possibilité aux dons spirituels que les chrétiens ont de se manifester. Que ce soit par la prophétie, que ce soit par les cantiques, que ce soit par l'exhortation, et ainsi de suite. Puis, le Seigneur permettant, nous y reviendrons en détail. Vous écoutez l'heure de la vérité. Vous écoutez l'heure de la vérité. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Je tiens à vous signaler que beaucoup de mes messages existent sur des brochures, sur des CD audio, sur des VCD et même sur des DVD. Tout cela est distribué gratuitement. Vous n'avez qu'à me contacter si vous en avez besoin. Avant de finir, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 3, où il est écrit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Nous voyons que l'apôtre Paul, à un moment donné, manifestait déjà une certaine crainte. Cette crainte, c'était que les chrétiens se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et aujourd'hui, on a tellement compliqué les choses de Dieu. On a remplacé les choses de Dieu, la parole de Dieu, avec la sagesse humaine. Les hommes ont organisé les choses de Dieu à leur manière, selon leurs pensées, selon leurs philosophies et selon leurs théologies. C'est pour cette raison que nous pouvons nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui, avec beaucoup de choses et beaucoup de pratiques qui ne sont pas confirmées vraiment avec exactitude par la parole de Dieu. Et comme je le disais, cette émission a pour vocation de nous ramener à la parole de Dieu. Parce que Jésus revient chercher une église glorieuse. Et cette église glorieuse doit se dépouiller, se détourner des fausses doctrines pour être prête. Donc, vous qui écoutez ces messages, il vous revient personnellement de décider ce que vous allez faire, si vous allez demeurer dans les faussetés ou faire un effort de mettre votre vie en règle à la lumière des Saintes Écritures, bien entendu. Une fois de plus, que le nom du Seigneur seul soit béni, parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles, surtout c'est lui qui a permis qu'il y ait cette émission sur votre radio. Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire et surtout permets que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, sur cette même radio, à cette même heure, et que les honneurs, Seigneur Jésus, les actions de grâce, la louange, l'élévation, l'adoration et les acclamations te reviennent à toi seul, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?